Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Qui va rejoindre le Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions, le Real Madrid ou le Bayern? Réponse à partir de 21h. On rappelle que lors du match, là, il y a eu deux buts partout. Les compos dans un instant avec Aurélien Tiercin. Analyse état de forme des deux équipes avec le drôle de dame Paulo Breitner et Fred Hermel. Hier, vous avez vécu sur RMC la qualification de Dortmund pour la finale de cette Ligue des Champions, le BVB, et qui a donc éliminé le PSG. Cette défaite est-elle celle de Luis Enrique? Comment l'expliquer? Venez nous livrer votre analyse au 32-16. Et puis demain, c'est l'OM qui va tenter d'atteindre une finale européenne, celle d'Europa League. Les Marseillais qui joueront leur demi-retour à Bergame après le 1 partout de l'aller. Êtes-vous comme Veretout et Jean-Louis Gasset qui était en conf de presse aujourd'hui et qu'on va entendre en plein rêve? Venez nous le dire là aussi au 32-16. Avec lui, on rêve à chaque fois sur RMC. C'est Roland Courbis.
Salut les amis.
Ça va Roland?
Bah ouais.
Bon, tu suis l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire français à Marseille, ville que tu connais bien.
Non mais c'est bien en plus parce qu'il fait beau.
Ouais, c'est quand même mitigé, non? Il y a quelques petites gouttes qui tombent là.
Ouais,
bon, t'en penses quoi là? Il y a eu grosse polémique dans Rotten sans flamme. On attendait que ce soit Zidane le dernier porteur, l'allumeur de la vasque de la flamme. Finalement, c'est Jules le chanteur.
Ben oui, pourquoi pas? Mais
ouais, petit clin d'œil populaire, non?
Ça m'étonne que on n'ait pas pensé à Zizou, ou c'est peut-être Zizou qui a refusé, je sais pas.
Ouais. Oui, effectivement. Après, c'est un choix. On vous attend donc au 32-16. Vous dire qu'également, il y a une demi-finale retour également de Conference League qui se joue en ce moment même entre Bruges et la Fiorentina. Il y avait eu 3-2 hein, à l'aller pour les Italiens. Il y a 1-0 hein, pour Bruges.
Ouais. Cette équipe de Bruges, elle est quand même pas facile à manœuvrer du tout.
Hein. Ouais, on est à l'heure de jeu et Bruges qui est en train de se qualifier pour une finale européenne. C'est pas arrivé depuis les années 90 hein, qu'un club belge atteigne une finale européenne. Ils sont en train de, pas loin en tout cas du moins, ils sont en train de revenir au score face à la Fiorentina. À 21h donc, Real Madrid, FC Bayern, le vainqueur rejoindra Dortmund en finale le 1er juin prochain à Wembley. Match que va nous faire vivre Aurélien Tiercin qui est au Bernabéu ce soir. Hola chico.
Buenas, ça va les amis?
Salut.
Muy bien. Là, ouais, on est quasi à la maison.
Bien sûr.
Il y a le soleil aussi les amis, mais le toit est fermé. Alors c'est magnifique et un peu dommage à la fois.
Ouais.
Mais ce stade, je l'avais pas encore vu rénové, messieurs. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'être au 20e étage d'une tour. C'est gigantesque. C'est fermé. Ça annonce des grandes choses.
L'autre drôle de dame allemande, Paulo Breitner également est avec nous. Salut Paulo. Est-ce qu'il est là mon Paulo?
Polo,
t'es là mon Polo?
Allô.
Ouais, ça va Polo?
Oui, bonsoir mon cher.
Salut Polo.
Bon Polo, tu la sens ta finale 100% allemande en Ligue des Champions chez les Anglais en plus hein. Je rappelle que c'est à Wembley la finale.
Bah après 2013, ça ferait 2024 quoi. Mais enfin bon, il y a encore il faut passer le Real, c'est pas évident.
Ouais. D'ailleurs, juste petite parenthèse là, on en dit quoi là de la qualif de Dortmund d'hier? Bon, j'imagine qu'on parle plus de la qualif de Dortmund que de l'élimination du Paris Saint-Germain, mais il y a quand même un caractère, un effet surprise en Allemagne de cette qualification de Dortmund ou pas?
Surprise, c'est pas le mot qui est le plus utilisé. Bon, ils se fichent un petit peu du PSG, hein, ça c'est normal, ils sont auto-centrés sur leurs propres équipes, hein, comme d'habitude, mais c'est plus la performance globale et surtout une fête et d'Interzic. Comme on dit en Allemagne, Erhard Gellifert, il a livré la prestation. Alors, vous savez que c'est quelqu'un qui est très très critiqué depuis maintenant presque deux ans par rapport à son style de jeu, etc. Et donc il a montré qu'il était là, qu'il était le boss, et que c'était un petit peu ça en fait ce qu'on dit du Borussia Dortmund. Là, et bon, évidemment, ils continuent à y croire parce qu'ils disent que si le Borussia gagne, ça fera une sixième équipe en Ligue des Champions l'année prochaine pour l'Allemagne, etc. Ce qui est un peu ridicule au bout d'un moment. Mais si tu veux, on se rend compte que c'est une véritable équipe, que les choix qu'il fait sont les bons sur le moment, etc. Et puis toujours la Quenchenglück, la petite chance qu'ils ont eue avec les poteaux évidemment au match aller, au match retour, mais ils sont très contents évidemment de l'ambiance qu'il y a eu, l'ambiance après la rencontre évidemment, parce que vous avez vu les joueurs peut-être qui ont été fêtés avec leurs supporters au Parc des Princes et tout ça, et que ça fait du bien au foot allemand.
Ouais. Et on vous attend un supporter du PSG au 32-16 hein, pour débattre avec Roland Courbis sur les causes, hein, analyser cette élimination du Paris Saint-Germain. On va se plonger hein, dans l'autre demi-finale de Ligue des Champions, Real Madrid-Bayern. Alors l'aller avait été spectaculaire hein, de but partout, on espère que ce sera le cas également ce soir. Est-ce que tu as les 11 de départ Aurélien de ce Real Madrid FC Bayern?
Oui, et du côté du Real, il n'y a pas de surprise, c'est le 11 attendu. Andrei Lunin est dans les cages, même si Courtois est revenu le week-end dernier, mais c'est bien l'Ukrainien qui sera dans les buts. Rudiger, Nacho Fernandez dans l'axe, Dani Carvajal de retour à droite, Ferland Mendy à gauche, Aurélien Tchouaméni en point de basse avec Toni Kroos et Federico Valverde au milieu de terrain, Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius évidemment devant. Du côté du Bayern, il y a un peu plus de surprise, Manuel Neuer dans les cages, De Ligt et Dyer en défense centrale. Mazraoui garde son poste de latéral gauche malgré son pied fort, le droit. Joshua Kimmich à droite. Konrad Leimer et Alexander Pavlovic, à peine 110 minutes de Ligue des Champions cette saison dans les pattes. Leon Goretzka est sur le banc des remplaçants. Et puis devant, pas de Thomas Müller non plus, c'est Serge Gnabry qui est titulaire aux côtés de Moussiala et Sané au milieu de terrain, avec évidemment Harry Kane devant.
Ouais, c'était quand même un beau quatuor. Hein.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il est assez surprenant quand même, le 11 là de Tourelle.
Ben oui, mais bon, surprenant, mais je le trouve quand même très, très intéressant. Celui du Real, il n'y a pas de surprise. Bon, sauf Kamavinga qui rentrera certainement en cours de match. C'est vrai que le Real est, je dirais, archi favori dans toutes les discussions qu'on peut avoir. Real. Mais je ne sais pas, mais attention quand même.
On aura les cotes tout à l'heure. Hein, la cote du Bayern, elle est pas loin de 3. Comment tu analyses les choix de Tourelle de ce soir, Polo? Je sais que ces derniers jours, ces dernières heures, on a beaucoup parlé notamment du fait que Goretzka soit sur le banc en Allemagne.
Oui, mais en fait, bon, il y a la première information importante, c'est que De Ligt est le titulaire en défense centrale. Il était revenu un petit peu ces derniers jours dans l'entraînement collectif, donc c'est pour ça qu'il est titulaire. Puis quand on a vu la performance de Minier, ben évidemment, c'était pas terrible, donc il fallait absolument que De Ligt puisse revenir. Le cas de Pavlovic est intéressant parce que Goretzka avait été plusieurs fois sorti en Bundesliga. On pensait qu'il était blessé, etc. à la mi-temps et non, ce sont pour des raisons tactiques. Et donc c'est un choix très fort de Thomas Tuchel de mettre le jeune Alexander Pavlovic, qu'on a déjà vu plusieurs fois en Bundesliga, au milieu de terrain à la récupération. C'est un vrai 6, 1m88, etc., devant la défense. Donc il sera avec Konrad Leimer pour stopper toutes les attaques et pour lancer un petit peu les flèches. Gnabry et Leroy Sané, Moussiala, vous l'avez dit, sera le meneur de jeu puisque Thomas Tuchel est sur le banc. Tout ça me semble à peu près logique. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Thomas
Tuchel.
Non, c'est Müller qui est sur le banc.
Je dis Thomas Tuchel à chaque fois. Thomas Müller est sur le banc. Mais je pourrais plus faire la faute l'année prochaine. La, c'est à peu près logique ce qui se passe. La question, évidemment, c'est est-ce qu'à 20 ans, même si t'es au Bayern depuis en formation, etc., est-ce que t'as le niveau, psychologiquement, faut absorber le fait d'être en demi-finale retour dans un match couperet contre le Real.
Alors justement, tu parles de Thomas Tuchel qui est encore sur le banc du Bayern pour l'instant. C'est marrant parce qu'il y a une espèce d'effet, là on a vu ça avec le Barça quand Xavi annonçait qu'il se barrait, le Barça s'est remis à gagner quasiment tous ses matchs. Bon, il y a eu, c'est vrai, cette élimination face au PSG, ça a tellement bien pris qu'il a décidé de revenir sur sa décision, Xavi. Alors je sais qu'il y a grand règlement de compte entre Tuchel et les dirigeants du Bayern via médias interposés depuis qu'il a annoncé son départ, et paradoxalement le Bayern tourne plutôt pas mal depuis Polo, on a l'impression.
Ouais, mais enfin apparemment les réseaux secrets, on va dire, du clan Thomas Tuchel, même s'il a ouvert la porte, en fait, c'est pas qu'on a ouvert la porte, c'est qu'il a fait comprendre qu'il y avait eu une négociation et que lui partait à la fin de la saison, mais que dans le football on sait jamais ce qui peut se passer, ce qui était une forme d'ouverture d'un fenestron, tu vois, pas d'une fenêtre, mais vraiment d'un petit truc. Mais apparemment, ce qui semblerait dans le clan de Thomas Tuchel, c'est qu'il a aucune envie de rester au Bayern Munich l'année prochaine, et c'est pour ça qu'il y a d'énormes complications pour trouver un coach remplaçant. Mais on parle beaucoup en Allemagne, surtout du modèle du Bayern Munich qui a peut-être fait son temps, on va dire ça comme ça, et notamment aux Lyonnais, c'est-à-dire de allumer tout le monde tout le temps depuis 40 ans. Ben, peut-être que dans les années 80, 90, ça pouvait fonctionner. En 2020, c'est peut-être un peu plus délicat.
Ouais, c'est vrai, ce sera d'ailleurs l'un des feuilletons de l'été, ou du moins des prochaines semaines, Roland, de savoir qui va remplacer Thomas Tuchel sur le banc du Bayern.
Et de savoir aussi où lui va aller.
Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, lui, il adore, on sait qu'il adore la Liga, il adore aussi la Première Ligue, mais il devrait certainement retrouver un poste incessamment sous peu. Qui est-ce qui tient la corde là, en ce moment là, pour le poste d'entraîneur la saison prochaine?
Ça change quasiment tous les jours. Donc hier, ou il y a deux jours, c'était Ten Hag, le coach de Manchester United, qui, rappelle-toi, Nico, c'est quand même quelqu'un dont le nom avait circulé au Bayern il y a quelques années déjà. Là, on nous parle, alors qu'il était quasiment éliminé, d'un retour possible d'Hansi Flick, mais qui pourrait revenir aussi avec un gardien qui a été l'entraîneur des gardiens qui avait été viré, c'est Nagelsmann, Tapalovic, qui s'entend très bien avec Manuel Neuer et tout ça. On dit que apparemment Hansi Flick serait heureux de venir, mais la question dont on ne sait pas, on n'a toujours pas de réponse aujourd'hui, c'est quel type d'entraîneur on veut, et surtout la durée du contrat. Parce qu'en 2025, encore une fois, il y a deux coachs qui intéressent beaucoup le Bayern Munich. C'est Xabi Alonso, qui était la priorité des priorités cette année. Et il y a un autre coach allemand qui est une légende en Allemagne, qui est Jürgen Klopp. Donc, si tu veux, on a le sentiment que le Bayern aussi, entre avoir un grand nom, tu vois, on pourrait très bien penser que Zidane, finalement, va être choisi. Mais n'oublions pas qu'il ne sera jamais le premier choix. C'est-à-dire que là, on est en train de descendre au fur et à mesure. Et il y a beaucoup beaucoup de communication. Moi, j'ai adoré hier, c'était hier, oui, Karl-Heinz Rummenigge qui fait une interview en Espagne en faisant comprendre qu'il fallait arrêter que tout se passe dans la presse. Mais il est le premier à balancer dans la presse quand il est content ou pas content. De dire Rummenigge, il était le premier à dire que Nagelsmann c'était pas une bonne idée parce qu'il était encore coach de l'Euro à l'Euro. Donc tout ça fait que c'est un peu délicat.
Polo, on va chercher José. Ouais, il attend que ça, Mourinho.
On aime le football, on aime le mec.
Ah ouais, mais vous voulez gagner ou pas?
Oui, mais ça, c'était avant 82, ça, tu vois. Séville 82 est passé par là.
Merci, mon Polo, d'avoir été avec nous. On te retrouve ce soir dans l'after. Merci. À l'issue de cette demi-finale entre le Real Madrid et le Bayern, deux partout lors du match. Allez, tiens, c'est reparti au basket. Match 5 du quart de finale d'Euroleague entre Monaco et Fenerbahçe. Salut, Maxime Tilliette.
Exactement, salut Nicolas, bonsoir à tous.
Salut Maxime.
45-40, les Monégasques sont devant et pourtant le Fener confirme très bien son statut de meilleure équipe à 3 points d'Euroleague avec 6 tirs primés dans le deuxième quart-temps. Et là encore, avec quelques instants, c'est Wilbekin qui a mis un 3 points énorme à longue distance, mais Monaco fait la course en tête grâce à un très bon Elie Okobo à 7 points, très très bon Donatas Moutier-Jounas à 11 points et donc il reste 17 minutes à jouer, c'est-à-dire la fin de ce troisième quart-temps et l'ultime quart-temps pour... Bien pourquoi pas rejoindre le Final Four qui aura lieu à Berlin cette saison à la fin du mois.
Allez, le Real Madrid ou le FC Bayern qui affrontera donc le Borussia Dortmund le 1er juin prochain en finale de Ligue des Champions, le BVB, et qui hier, c'était sur RMC, a pris le dessus sur le PSG. Cette élimination est-elle celle de Luis Enrique? Comment l'expliquer? Venez nous livrer votre analyse au 32-16 et en débattre avec Roland Courbis. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Et Roland Courbis, dans 46 minutes, le Real Madrid et le Bayern vont se retrouver pour la demi-finale retour de Ligue des Champions de partout à l'aller. Et le vainqueur de cette rencontre affrontera Dortmund en finale le 1er juin prochain. Ce sera à Londres, à Wembley. Le BVB, qui a donc éliminé le PSG en demi-finale de Ligue des Champions 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres, vient maintenant, le temps des explications, des analyses. Venez nous dire au 32-16 comment expliquer cette sortie du PSG en demi. Roland, je vais commencer par toi. Comment tu l'expliques, toi? Je sais que la question est complexe, mais ce 2x0-1, ce 2x1-0, comment on l'explique finalement?
On peut l'expliquer déjà avec beaucoup de regrets. Les traditionnelles compositions d'équipe, les traditionnels changements. Alors après, dans la question, est-ce que Luis Enrique est le responsable? Ben, en partie, oui, comme tous les entraîneurs, quand ça se passe bien, ben, tu es en partie responsable, et quand ça se passe pas bien, tu es pratiquement encore plus... responsable.
Il y a des joueurs qui ont déçu aussi quand même, Roland, on est d'accord?
Oui, des regrets, mais quand les joueurs déçoivent, à partir du moment où on est parti sur l'idée que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Donc, on l'observe et on est surpris de certains changements et de l'utilisation de certains joueurs. Je te donne un exemple. Je viens de regarder avec beaucoup d'attention la composition d'équipe après un 2-partout du Bayern Munich dans un 4-2-3-1 et avant le match, on discute toujours avec les passionnés de football et tout, on m'a posé la question, donc c'était avant le match, quelle équipe j'aurais mis en place. Mais je vais te la donner, mais ça ne veut pas dire que j'ai la prétention de dire que si Luis Enrique avait mis cette équipe-là, le Paris Saint-Germain se serait qualifié. Mais j'aurais quand même aimé en tant que passionné, l'avoir. Déjà, à la place de Beraldo, je réfléchis même pas Danilo, pour plusieurs raisons. Son expérience, son jeu de tête, défensif, offensif, et aussi le fait de mettre un expérimenté à côté de Nuno Mendes, qui est quand même revenu de très loin. Les deux milieux récupérateurs de ce 4-2-3-1, il n'y a pas de surprise. Zaïre Emery et Vitinha. Ouais. Ruiz, je sais pas ce qu'il fait dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain.
Il a l'air un peu perdu.
Mais pas seulement d'hier. Et ensuite, les trois devant, Dembélé côté droit, qui en plus de ça fait partie des attaquants qui défendent. Je dirais lui, ce qui n'est pas le cas dans tous les débats de Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé a d'autres qualités. Et ensuite, côté gauche, Barcola, qui lui aussi défend. Ce qui fait que ça te fait un duo Barcola Nuno Mendes et du côté droit Dembélé et Hakimi. Et ensuite, en pointe, Ramos, un gars qui a le sens du but, qui flaire les coups, qui se retrouve en point de fixation, qui se retrouve en repère pour ses coéquipiers, chose qui n'est pas le cas quand tu mets Mbappé, il le fait par obligation, mais tu sens que c'est pas son poste. Et Mbappé, eh ben on le fait rajeunir de 7 ans, il se met en retrait de Ramos, comme il était à Monaco, en retrait de Falcao. Et cette équipe-là, qui a un petit but à rattraper, ben, l'inquiétude moi que j'aurais pu avoir avant le match, c'est que les joueurs, tellement qu'ils allaient rentrer avec une certaine agressivité et tout, qu'il n'y ait pas un expulsé, allez-y quand même, Molo. Mais j'ai rien vu de tout ça.
Ils ont tardé quand même à se réveiller.
J'ai vu une équipe moyenne. Alors après, bravo Dortmund. Ben évidemment, bravo Dortmund. Mais pour le Paris Saint-Germain, tu perds contre une équipe qui termine cinquième de son championnat et qui a transféré Bellingham à l'intersaison. Bravo Dortmund. Ben il manquerait plus qu'on leur dise pas bravo.
En tout cas, la confiance qui semblait régner au PSG a laissé place à la frustration, la tristesse logique après cette élimination. Nasser El Khelaifi, qui avait qualifié cette rencontre, cette demi-retour comme étant la plus importante depuis son arrivée à Paris, était en zone mixte à l'issue de la rencontre. Et alors que certains font porter la responsabilité de cette défaite à Luis Enrique, voici comment il a réagi.
Comme je dis, on construit quelque chose pour le futur. Bien sûr, on veut continuer notre objectif pour jouer bon football. C'est sûr, le futur, c'est pour nous. Très fiers de ce qu'on a fait. Jusqu'à le moment, on est triste, bien sûr. On a pensé qu'on va aller à la finale. Mais...
Luis Enrique va rester coach au PSG la saison prochaine.
C'est quoi cette question, honnêtement? Honnêtement, vous comprenez le foot?
Voilà, vous comprenez le football. Alors, vous posez la question, venez nous y répondre au 32-16. Est-ce que cette élimination est celle de Luis Enrique? C'est vrai que c'est un entraîneur qui divise pas mal. Est-ce que après une première saison où il est champion de France, il est en finale de Coupe de France, il est demi-finaliste de Ligue des Champions, il faut tout remettre en question pour autant? C'est vrai que la question revient depuis hier.
Pas tout remettre en question, mais essayer quand même de réfléchir à ce que représente le Paris Saint-Germain. Et ensuite, ne mélangeons pas le mot performance, je vais pas faire une leçon de français, avec exploit, et ne mélangeons pas échec avec fiasco. Donc à partir du moment où tu es Paris Saint-Germain, il manquerait plus que tu sois pas champion de France. Bon, tu es champion de France, tu es finaliste de la Coupe de France. Eh ben bon, cette finale, on va la regarder, parce que pour arriver en finale, le Paris Saint-Germain a toujours reçu à domicile. Eh ben tant mieux quand tu as les tirages au sort qui te facilitent les choses. Et ensuite, ben, en ce qui concerne la Champions League, je suis désolé, mais tu ne peux avoir que des regrets.
Ouais, quand tu vois le tirage.
Quand tu vois le tirage. Et aussi, les scénarios des matchs, tu peux te dire, cette année, et moi j'étais le premier à le dire, cette année, vu les scénarios, vu les adversaires, vu le tirage au sort, vu comment ça se passe, on va au bout du côté de Paris Saint-Germain. Eh ben non. Non, on n'y va pas, donc tu es obligé d'avoir des regrets.
Allez, supporters du PSG, on vous attend au 32-16, supporters de l'OM aussi, on rappelle, on est à J-1 de la demi-finale retour de Marseille à Bergame face à l'Atalanta. On a Cameron, supporter parisien, qui nous a appelé au 32-16. Salut Cameron.
Salut les gars.
Ouais, ça va Cameron?
Salut Cameron.
Ça va super, et vous?
Ouais, bien. Pas trop mal à la tête ce matin?
Ah, je me suis réveillé à la gueule de bois. J'ai dormi. Ma femme m'a dit que dans la nuit, j'ai insulté Mbappé et tous les joueurs du PSG en dormant. Sans déconner. Non, je ne vous raconte pas des cracks. Hein.
Alors, comment tu expliques cette élimination, toi, Cameron, alors?
C'est un tout. C'est un tout. Pour moi, il y a une part de responsabilité. Nos leaders, ils ont été défaillants. J'ai envie de dire, je dis nos leaders, mais celui qui est censé être notre leader, Mbappé, il a été défaillant. Donc, c'est une faillite collective. Il y a une faillite aussi de l'entraîneur. Je pense que on parle d'un entraîneur courageux, mais je crois qu'il a perdu toutes ses coronets, comme ils disent en Espagne, sur ce match-là. Parce que au bout d'un moment, gagne, foutu pour foutu, tu dois gagner, tu dois jamais sortir Ramos. Pourquoi il passe pas en 4-2-4? T'enlèves un milieu de pied, t'enlèves un milieu
de pied. Surtout que dans les 20 dernières minutes, c'est là où le Paris Saint-Germain, ben avec, oui, avec l'entrée de Zoulou, a été le plus de fois. Donc, et là, on a besoin d'un gars qui flaire les coups. On a besoin justement d'un finisseur. Et c'est vrai que sortir Ramos, qui est pas très heureux dans ce match-là, mais
oui,
il est quand même, il est quand même pratiquement toujours dans l'action aux aériens Brim, mais sur le poteau. Il est là encore où il faut. Donc il y a un centre, mais tu le vois, il lui manque un mètre, mais ça fait rien. Il était présent. Et ça, on peut pas non plus l'enlever. Et là où ça va être quand même de plus en plus intéressant, où on voit quand même qu'il y a le rugbyman Zoule qui rentre dans un match de football, on se dit il va y avoir beaucoup de centres, il va y avoir beaucoup d'actions dans les 20 derniers mètres. Et c'est là qu'on t'enlève celui qui flaire les coups.
Ben,
vous m'expliquerez.
Jusqu'à moi.
Et en général, quand on m'explique, je comprends. Je suis quand même pas complètement con.
Jusqu'à moi, parce qu'on en parlait il y a quelques instants. Est-ce que t'en viens, toi, à remettre en cause la continuité de Luis Enrique pour autant ou pas?
Non, quand même pas. Parce que notre problème à nous, c'est ça aussi au PSG. C'est à chaque élimination, on veut toujours virer l'entraîneur. Moi, j'estime qu'à partir du moment où... Moi, je n'étais pas trop pour sa venue. Mais à partir du moment où tu décides, tu choisis un entraîneur, il faut que tu partes sur plusieurs saisons. Tu ne veux pas te permettre de toujours tout recommencer tous les ans. Parce qu'on n'arrivera à rien comme ça. Il y a un seul club qui l'a fait, c'est Chelsea. Ils l'ont fait par deux fois. Ils virent un entraîneur, six mois après, la Ligue des Champions, ils gagnent. Avec Di Matteo et avec Tuchel. Donc, ces trucs-là, c'est miraculeux, ça ne marche pas. Ah oui, et puis il ne faut pas oublier Zidane qui l'a fait avec le Real Madrid après le départ d'Ancelotti. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as décidé de partir sur Luis Enrique, eh ben faut lui laisser son mandat.
Non, laisse-moi te couper, je vais te rajouter une chose. C'est qu'une de mes phrases préférées, chacun ses goûts, c'est qu'on progresse à tout âge. Luis Enrique, avec toutes les conneries qu'il a pu faire cette saison dans ses originalités, qu'il n'y avait que lui qui pouvait penser que ça puisse marcher.
Ça lui servira de leçon.
Oui, absolument. Ouais. Donc la saison prochaine, on va avoir un Luis Enrique un peu mieux inspiré que ce qu'on a pu voir dernièrement.
Cameron, merci d'avoir été avec nous.
Mais y a pas de souci. Bon, je voulais rajouter une couche sur Mbappé, les gars. Franchement, je trouve que on a été beaucoup trop mignons avec lui depuis le début, mais bon. C'est peut-être pas le thème, on n'a peut-être pas le temps ce soir, mais.
Je peux t'en rajouter une sur Mbappé.
Ouais.
Non. Vas-y, vite.
Essayons quand même de réfléchir au niveau de Mbappé. Essayons de réfléchir si la solution est la bonne solution. Et là, je parle encore des idées de Luis Enrique. C'était de faire la guerre à Kylian Mbappé quand il a annoncé qu'il partait. C'est une connerie de partir de cette intersaison. Je le dis, je le répète et j'arrêterai pas de le répéter. Là où il y a le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques. Là, c'est une erreur de Kylian et de son entourage. Mais de là à régler le problème d'Mbappé en montrant que Mbappé, c'est comme monsieur tout le monde, comme n'importe quel joueur, il est pas bon, oui, il sort. Mais attends, il est pas bon, il sort. Mbappé, il peut être mauvais en première mi-temps et te faire gagner à la 92e.
Oui. Je suis pas d'accord, moi, quoi.
C'est pas grave, c'est pas pour autant que
j'ai sûr d'avoir
raison.
J'ai un truc qui va te remonter le moral, c'est que mon gars, à partir de demain, il y a l'OM qui joue une place en finale de Coupe d'Europe et tu vas être à fond derrière les Marseillais, mon gars.
Je veux même pas ça. Alors là, si l'OM se qualifie, alors là, moi, j'arrête tout parce qu'on va les entendre 50 ans. Et notre place, elle était là, nous, hein. La Ligue, on partait, c'est ça, hein. C'est miraculeux qu'on arrive là.
Merci, Cameron, en tout cas.
Je rajoute une mauvaise nouvelle. Donc l'OM du côté de Marseille, c'est pas seulement qu'ils pensent aller en finale, c'est battre le Verkusen, être les premiers à battre les Verkusen.
Les premiers, bien sûr, les premiers à battre les Verkusen cette saison.
Du côté de Marseille, ils sont optimistes.
Bien sûr. Tiens, on va aller retrouver Maxime Tilliette. Le match 5 du quart de finale de basket, c'est de l'Euroleague, bien sûr, Monaco-Fenerbahçe, Maxime.
Exactement, il reste 20 secondes à jouer dans le troisième quart-temps et Monaco qui avait pris un peu le large jusqu'à 7 points d'avance et finalement Biberovic du côté du Fener vient de mettre 3 tirs à 3 points coup sur coup et le Fener doit passer devant, sauf que là c'est en train d'être vérifié à la vidéo, donc pour l'instant toujours 55-53 pour Monaco au tableau d'affichage, 20 secondes à jouer dans le troisième quart-temps.
Allez, supporters de l'OM, on vous attend au 32-16, on a J-1 de la demi-finale retour d'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame, un partout lors du match. Allez, on écoutera Jean-Louis Gasset et Jordan Veretout qui était en conf de presse aujourd'hui. Un mot est revenu dans la bouche des deux hommes, le mot rêve. Est-ce que vous êtes en plein rêve, vous aussi? Nous, on l'est, grâce à Roland Courbis. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Il est 20h30, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous, avec Roland Courbis. À 21h, demi-finale, retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. De partout à l'aller, et le vainqueur qui affrontera Dortmund en finale, le BVB qui a sorti le PSG hier. Match qu'on va vivre avec Aurélien Thiersin qui est au Bernabeu. D'ailleurs le 32-16 sera ouvert, on sera là avec Manu Petit notamment pour suivre ce match. Aurélien, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel compo de ce Real Bayern, s'il te plaît?
Oui, et du classique pour ce classique de la Coupe d'Europe, du classique du côté de Ancelotti, Lunin dans les cages, Nacho, Antonio Rüdiger dans l'axe de la défense, Dani Carvajal à droite, Mendy à gauche, Tchouaméni, Valverde, Kroos au cœur du jeu madrilène et devant Bellingham en soutien de Rodrigo et Vinicius. Du côté du Bayern, c'est moins classique, Neuer dans les cages, d'ailleurs De Ligt en défense centrale, Kimmich à droite, Mazraoui à gauche, le jeune Pavlovic titulaire au cœur du jeu aux côtés de Konrad Leimer, Leon Goretzka est sur le banc des remplaçants. Thomas Müller est également sur le banc. Serge Gnabry accompagne Moussiala et Leroy Sané en soutien là d'Harry Kane, le joueur aux 44 buts cette saison avec le Bayern.
Tiens, tu parles de classique du foot européen, t'as raison. Vous savez combien il y a eu de précédentes confrontations entre le Real et le Bayern? T'as une idée, Roland, ou pas?
5 ou 6.
Il y en a eu 27.
Oula.
Vous vous rendez compte, c'est le 28e match entre le Real et le Bayern.
Et 8e demi-finale.
Non, mais c'est complètement fou, en fait. C'est
jamais de finale, par contre. C'est ça qui est marrant.
Ouais, c'est vrai, en plus, t'as raison. 20 Ligue des Champions à E2, quand même. Enfin, c'est complètement fou ce que ça pèse, quand même.
J'ai 5 ou 6, je pensais aux demi-finales, pas aux.
Ah, aux confrontations totales. Tiens, on va parier, justement, sur ce Real Madrid-Bayern.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Johan Guillet. Salut, Johan.
Salut, messieurs, salut à tous.
Il y a de la belle cote ce soir, mon Yo.
Il y a de la très belle cote, Nico. Ok, oui, monsieur. On double la mise pour la victoire du Real Madrid. Le nul est à 3,85. Le succès du Bayern Munich, lui, est à 3,65. J'ai été très sûr de la victoire du Real, mais il se passe tellement de choses dans cette Ligue des Champions, Nico, que je ne sais plus.
Tu sais, j'ai l'habitude de dire, comme dit mon Roland, il n'y a que le football pour nous procurer des émotions pareilles.
Exactement, ouais. On est bien d'accord. On est d'accord également pour dire que le plus important dans le premier quart d'heure, c'est les 15 premières minutes. Messieurs, étant donné que je ne sais pas sur quoi miser, eh ben j'ai de la chance. On a notre partenaire qui nous propose une très belle grosse cote boostée.
Vas-y,
les deux équipes qui marquent sans donner de vainqueur, ça passe de 1,50 à 2.
Ah ouais?
On double la mise pour les deux équipes qui marquent.
On est limité à 10 euros, c'est ça?
On est limité à 10 euros.
On prend 20 balles.
Mais je fonce.
Ouais, ben on peut faire un petit ticket cote boostée. Ça n'empêche pas qu'on peut jouer.
Évidemment.
Avec moins que le Real puisse gagner. Oui, pourquoi pas. Mais avec ce que, comme tu viens de dire, qu'on a vu hier, je partirais plutôt sur la possibilité d'un nul dans mon pronostic. Donc Real qui perd pas les deux équipes qui marquent et Vinicius ou Kane buteur.
Le Real qui ne perd pas les deux équipes qui marquent avec Vinicius ou Kane buteur, c'est 2,50.
Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ton truc là, Roland. Là. C'est vrai que franchement, il y a que des belles cotes. Hein, ça dit. Toi, tu vois qui se qualifie, Roland? Il y a une grosse hype autour du Bayern notamment.
La qualification du Bayern est à 2,75.
Ah, c'est pas mal. Hein. Tu dirais quoi, toi, Roland, peut-être, pour la qualif?
La qualif, je vois quand même. Le Real, je m'imagine pas le Real ne pas se qualifier dans son stade à Madrid. Donc je vais bien évidemment regarder parce qu'on a l'habitude, moi avec, de critiquer un petit peu, ouais, certains avantages au coup de sifflet. Et donc on va voir si ce soir, ben, les coups de sifflet sont pour le Bayern ou pour le Real.
Merci beaucoup. Je rappelle tous les paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Tiens, il faut dire que se joue également ce soir en match anticipé la demi-finale retour de Conference League entre Bruges et la Fiorentina. Et la Fiorentina vient d'égaliser sur penalty. On est dans le temps additionnel. Et pour l'instant, donc, c'est la Fiorentina qui est qualifiée. Parce qu'ils avaient gagné 3-2 à l'aller. Et il y a un partout dans ce match retour, égalisation sur penalty. Pas mal de réussite, hein, pour les Italiens,
bah, oui,
d'ailleurs.
3-2 à l'aller avec Bruges qui jouait à 10 contre 11 et un but à la dernière minute.
Ouais. Allez, demain, 21h, c'est l'OM qui va tenter une place en finale de Coupe d'Europe en Europa League. Les Marseillais qui seront à Bergame après le 1 partout à l'aller au Vélodrome. Tiens, quelques infos qui concernent l'Olympique de Marseille. Groupe quasi au complet. Alors, Rongier, toujours pas disponible. Onana et Ulysse Garcia qui sont pas inscrits en Europa League. Mais Gigot qui était suspendu à l'aller et de retour. Bamo Meite qui était touché à la cheville, lui aussi réintègre le groupe. Ça, c'est des bonnes nouvelles quand même pour Jean-Louis Gasset, hein, Roland.
Ah, bah oui. Hein, ça permet de faire une organisation, je pense, hein, avec vraisemblablement trois arrières centraux, deux pistons qui sont quand même parmi, pour moi, je trouve le duo de pistons dans les trois meilleurs de notre championnat. Et ensuite, ben, Aubameyang qui a pas été bon au match aller, je me l'imagine pas être pas bon dans le match retour. Donc je pense que il va falloir compter avec lui.
Allez, Jean-Louis Gasset, Jordan Veretout qui était en conf de presse aujourd'hui. On vous attend, un supporter de l'OM au 32-16 pour nous dire dans quel état d'esprit vous êtes avant ce match entre l'Atalanta et l'OM. Et un mot est revenu dans la bouche de Gasset et Veretout qui sont à un match d'une finale européenne. Ce mot, c'est rêve, écoutez.
Et c'est le rêve d'un footballeur de jouer des matchs comme ça. C'est le rêve d'un footballeur de gagner des titres. On est là pour ça, on est à l'Olympique de Marseille. De les amener déjà à Dublin, ça sera énorme. Après, ensuite, on verra. Mais c'est pas tous les jours qu'on peut jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. On va tout donner.
J'ai jamais joué une demi-finale de quoi que ce soit. Une finale, encore moins. Donc, à mon âge, je pense qu'on peut rêver.
Franchement, c'est beau. Jean-Louis Gasset, 70 ans, qui va vivre sa première demi-finale, peut-être sa première finale. C'est quand même beau, Roland, le foot.
Ah hein. Ben, qu'est-ce que je lui souhaite. Tu peux même pas t'imaginer, parce qu'en plus, plus brave garçon que lui, c'est difficile à trouver.
Alors, toi, t'as déjà connu ça en tant qu'entraîneur de l'OM. Demi-finale de Coupe d'Europe, finale aussi. Tu lui donnerais quoi comme conseil à Jean-Louis Gasset, mon Roland?
Ben, disons que c'est difficile de donner des conseils dans le sens que...
Je rigole parce que Manu Petit, qui à côté, m'a dit de la gagner. Ouais, c'est pas bête comme conseil, ouais.
On attend avec impatience le 11 de départ. Mais je crois que on s'était mis d'accord sur une vision des choses médiatiquement pour le match aller. C'était de ne pas penser qu'il faut obligatoirement, puisque c'est un handicap, de recevoir d'abord et de se déplacer après. Donc malgré ce handicap, il faut surtout ne pas être trop offensif au match aller pour après te faire piquer en contre contre une équipe qui quand même est redoutable. Et donc de se dire, un match nul au match aller ne serait pas obligatoirement un mauvais résultat, ce qui a été le cas. Donc il n'y a plus le but à l'extérieur qui compte double. Donc tu sais qu'au coup d'envoi, tant que tu n'as pas pris un but, si tu marques c'est encore mieux, mais tant que tu n'as pas pris un but, tu avances et tu peux aller à la prolongation. Mais je continue dans mon optimisme, je ne vois pas l'OM ne pas marquer demain. Ce qui veut dire que pour être éliminé, il faudra qu'ils en prennent deux. Ouais. Si des fois, je ne me suis pas trompé.
Oui, c'est ça. Le compte est bon. Bon, il n'y a plus les chiffres et les lettres, mais toi, tu es toujours là. Fabrice, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Salut Fabrice.
Salut Nico. Salut Roland.
Salut Fabrice.
Comment il va, Fabrice là? Il est confiant à J-1 de cette demi-finale retour de Coupe d'Europe là?
Ben ouais, moi je suis confiant, d'autant plus que je suis un peu soulagé parce que comme tout supporter marseillais, je t'avoue que la défaite du PSG, ça m'a bien fait plaisir.
Et ils vont pas se lâcher là, les Marseillais et les Parisiens cette semaine, c'est sûr.
Non, mais moi je suis confiant, ça va le faire, comme dit Roland. On a plutôt bien joué au match aller, on a fait un partout. Écoute, demain on n'a rien à perdre. Cette équipe de quand même un petit peu de bras cassés à la base, elle est quand même devenue sympathique avec le temps. Et moi j'ai envie d'être derrière et j'ai envie de d'y croire quoi demain. Il suffit qu'on ait un bon joueur dans chaque ligne, un bon Paul Lopez, un bon Balerdi, un bon Amine Harit et un bon Obam, écoute.
Après, t'as rien à perdre, t'as quand même une qualif à jouer, mon Fabrice.
Si déjà tu as ça, c'est pas mal.
Ouais.
Et ouais, non, mais moi, il faut rester confiant. On n'a pas perdu au match aller, on a fait plutôt un très beau match, j'ai trouvé. Donc, écoutez, les gars, on va y croire. Hein. Et puis, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Le championnat est terminé. Nous, on a une petite équipe. Ça fait 4 tours qu'on est les plus mauvais. Tu sais quoi, on va la jouer là demain, la demi-finale. Hein.
Donc t'as quand même un truc à perdre, Fabrice. Enfin, et puis je sais pas. Alors ok, je veux bien. C'est l'Atalanta, ça joue bien. Tu joues à Bergame. Même si le stade, on le sait, en travaux, il y aura 15 000 spectateurs. Mais tu dis, il y a quand même un coup à jouer, non? Quand t'es supporter de l'OM là.
Oui, bien sûr qu'il y a un coup à jouer. Mais on est quand même assez faible, hein, tu sais. Mais bon, écoute, j'ai assez confiance. Là, j'ai acheté le maillot de Paul Lopez. Là,
Paul Lopez. Parce que vraiment, c'est rare d'acheter des maillots de gardien. Pourquoi?
Un pari loupé. On était au quart de finale avec des potes au Vélodrome. Et à la mi-temps, j'ai dit, si on gagne le match contre Benfica avec un arrêt de Paul Lopez au pénalty, j'achète le maillot.
Je me disais aussi, un mec qui achète un maillot de Paul Lopez, c'est un pari perdu. Je vois que ça.
Entre autres, c'est vrai que le match de Paul Lopez contre Benfica, si il fait le même demain, tu augmentes les chances de te qualifier.
Ah mais demain, Roland, s'il fait le même, j'achète dans une autre couleur.
Mais non, achète autre chose, non. C'est quoi le joueur qui te fait vibrer, toi, à l'OM cette saison, Fabrice?
Écoute, moi, alors que j'ai crépi pendant des années, Balerdi, je le trouve énorme.
C'est vrai qu'il est fort cette année, les mecs. Hein. Moi, je le reconnais pas.
Et un coup de cœur pour Luis Enrique, pareil. C'est son cousin qu'on avait, hein, c'est pas possible. Et moi, même au Vélodrome et tout.
Chacun son Luis Enrique, hein.
Ouais.
Ah ouais. Non, et puis Obam, écoute, il a pas loupé, mais voilà, au match aller, il s'est un peu foiré sur une occasion.
Ah mais quand même, il fait sa saison, Fabrice, non?
Ah mais carrément, mais j'espère que demain, écoute, il va nous la mettre et puis c'est bon, quoi, tu vois. Donc non, moi j'y crois demain, j'y crois. Et puis je te dis, on est soulagé, on est détendu. L'étoile, il y a que nous qui l'avons. Et voilà, on sera à jamais les premiers, à jamais les tout seuls surtout. Ouais. Donc ça c'est important pour moi. Donc,
et ben voilà. Fabrice, merci d'avoir été avec nous. Belle demi-finale, retour à toi demain avec nous sur RMC. Ouais.
Je passe une petite dédicace à tous mes potes marseillais et parisiens parce que j'ai des copains parisiens.
Tu vois, moi aussi j'ai un copain parisien et c'est quelqu'un de très bien.
À Vince, à Seb, à JB, à Julien, à David, à Fabien, à JF.
Et la libre antenne, c'est demain, Fabrice, ok? Donc c'est demain, ouais, minuit et demi.
Ça marche. Bon, messieurs, en tout cas, continuez.
C'est gentil.
C'est cool. Et un gros bisou aussi à Roland qui nous a fait aussi vibrer.
Et bien sûr.
Et oui. Voilà. Merci messieurs.
Bonne soirée, merci Fabrice. À très vite Fabrice. Salut, bisous Fabrice. À toi. Porte-toi bien Fabrice. Maxime Tilliat lui aussi nous fait vibrer également. Il nous fait vibrer à travers ce Monaco Fenerbahçe match 5 du quart de finale de Euroleague de basket.
Ouais, c'est très tendu, c'est très serré, mais là le jeu est arrêté pour régler un problème de faute sur le tableau d'affichage, donc ça a fait un peu redescendre l'atmosphère. 58 partout en tout cas, et 9 minutes à jouer pour soit rejoindre le Final Four ou bien mettre un point final à cette saison d'Euroleague. La saison passée, Monaco avait réussi à remporter ce match 5 ici face au Maccabi Tel Aviv. On va voir si l'histoire se répète face au Fener. 58 partout et 9 minutes à jouer.
Allez, dans un instant on va replonger dans l'autre demi-finale de cette soirée, l'autre demi-finale de Ligue des Champions. Le vainqueur du Real Madrid-Bayern affrontera Dortmund en finale. Fred Hermel sera avec nous pour analyser les choix de Carlo Ancelotti. Je vous rappelle qu'il y a eu 2-2 au match aller. Aurélien Tiercin va nous faire vivre ce match depuis le Bernabeu. Aurélien qui a rencontré d'ailleurs des supporters du Real qui donc pourraient, devraient accueillir Kylian Mbappé la saison prochaine, et leur a demandé s'ils étaient inquiets face aux prestations de Kylian Mbappé. Il va nous raconter ça, notre Aurélien Tiercin, et vous dire que ça vient de se terminer à Bruges entre le club Bruges et la Fiorentina. 1-1 entre les deux équipes. C'est donc la Fiorentina qui est qualifiée pour la finale de Conference League. La Fiorentina donc qui retrouve une finale de Coupe d'Europe et qui est qualifiée pour la finale de C4. Je vous rappelle que ce match d'ailleurs a été avancé puisque demain il y a une fête à Bruges, et pour des raisons de sécurité, eh bien les autorités ont préféré avancer ce match. Allez, on revient dans un instant avec Roland Courbis pour se plonger dans ce Real Bayern. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Et Roland Courbis, qui va rejoindre Dortmund en finale de Ligue des Champions. Début de réponse dans un quart d'heure avec le coup d'envoi de Real Madrid-Bayern. 2-2 au match aller. Aurélien Tiercin va nous faire vivre ce match depuis le Bernabeu. Aurélien, tiens, juste avant que tu nous rappelles les compos, je sais qu'il y a une belle ambiance dans ce très beau nouveau stade d'ailleurs du Bernabeu qui a été refait. Toi, fermé d'ailleurs ce soir. C'est dommage, tu nous le disais, parce qu'il fait beau. Il y a aussi un très bel accueil qui a été réservé par les supporters du Real à leurs joueurs.
Ouais, exactement. Alors l'accueil avec les chevaux de la garde de la police espagnole avec le bus derrière, mais là il y avait des dizaines de milliers de supporters. Alors c'est habituel, mais je voyais les journaux espagnols, Fred pourra confirmer, il y avait une idée de chair de poule et de plus bel accueil de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc visiblement c'est une soirée à part.
Et oui, parce que Fred Hermel nous a rejoint lui aussi, notre drôle de dame espagnole. Salut Fredo.
Hola chicos.
Salut Fred.
Ça va les copains?
Bah et toi alors?
Ah bah tranquille.
Alors, gros accueil pour les joueurs madrilènes, alors.
Ouais. Alors, bon, je connais mes copains espagnols. À chaque fois, c'est.
Ça exagère un peu.
C'est à chaque fois le plus bel accueil.
C'est toujours le plus bel. Mais c'est vrai, moi, j'en ai vécu tellement. Et c'est ce qu'on appelle la place des 5 heures, des Los Sagrados Corazones. Et c'est vrai que ça, c'est impressionnant. Et parce que c'est notamment impressionnant quand il y a des remontadas à faire. Donc, c'est des dizaines de milliers de personnes et des gens qui ne sont pas au stade, en fait. Des gens qui viennent simplement pour animer l'équipe,
pour les
puis
voir,
après
quoi.
Ils rentrent chez eux et puis ils vont regarder le match à la télé. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant avec les chevaux. Et vous savez pourquoi la police espagnole est à cheval autour des stades?
C'est parce qu'il y a un jeu de mots ou pas?
Non, parce que ça fait peur aux connards, en fait.
Ah, les chevaux, ouais, ça rêve. J'allais dire, ils sont à cheval sur les règles, un truc comme ça.
Non, mais tout simplement parce que c'est très impressionnant. Nos grands chevaux, ils sont très impressionnants. Et déjà, les policiers ont une vision de très haute, en fait, de ce qui peut se passer. Et ça impressionne énormément ceux qui voudraient foutre le bordel.
Ouais. Moi, j'ai et ça marche vraiment bien. Personnellement, par exemple, donc voilà, j'ai très peur. Non, mais vraiment, je trouve ça impressionnant comme animal. Tiens, est-ce que tu peux nous rappeler le 11 du Real Madrid, mon cher Aurélien, s'il te plaît?
Oui,
pas
de surprise particulière. Lounine dans les cages, c'était annoncé. Thibaut Courtois revient sur le banc, hein, même s'il a rejoué pour la première fois depuis 9 mois contre Cadiz en championnat. Rudiger, Nacho dans l'axe de la défense. Dani Carvajal à droite, Ferland Mendy à gauche, Tchouaméni, Valverde, Kroos au cœur du jeu, et puis Bellingham en soutien des deux Brésiliens, Vinicius et Rodrigo.
Comment tu juges les choix de Carlo Ancelotti, Fredo? D'ailleurs, alors, c'est quoi, on va commencer par le poste de gardien, puisque Aurélien l'a dit, Courtois est revenu de blessure. Là, il va y avoir quand même un sacré problème de risque pour Carlo Ancelotti, entre Lounine et Courtois, non?
Pour la finale, si,
bah,
si
pour la finale, la saison prochaine, enfin pour l'avenir, quoi.
Ah non, mais pour la saison prochaine, il y a zéro doute, hein, c'est Courtois. Hein.
D'accord. Même si Lounine est performant. Non.
Ah, ah ben oui, enfin, mais tu sais, Courtois a été titulaire l'autre jour contre Cadix, il a fait deux arrêts exceptionnels. Voilà, enfin c'est. Alors Lounine est au-delà des espérances parce qu'ils avaient venir Kepa parce qu'ils ne faisaient pas confiance, ils n'avaient pas confiance en Lounine et Lounine a montré être meilleur ouais. que Kepa et il s'est grandi dans les grands matchs. Après le titulaire c'est Thibaut Courtois. Il y a encore quatre matchs d'ici à la finale, ouais. six finales il y a. Il va tous les jouer et moi je serais prêt à parier que s'il a de bonnes sensations et on a vu que pour son premier match c'était déjà pas mal du tout qu'il pourrait être titulaire pour la finale, ce qui va être un crève-cœur pour Carlo parce que expliquer à Lounine
ça va pas être simple pour Carlo.
Oui, mais Carlo quand on lui a parlé l'autre jour du jeune Arda Güler, il a dit au Real on me paye pour gagner des matchs, pas pour donner des minutes aux jeunes. Donc il sait aussi mettre comment dire il sait choisir ses priorités en fait. Ouais. Et une finale de Ligue des Champions, Lounine n'a jamais joué de finale de Ligue des Champions. Courtois, pour lui, c'est facile.
Il n'a pas été incroyable contre Manchester City en plus.
Non. Et notamment dans les sorties aériennes, Lounine a parfois quelques petits problèmes. Donc quand on voit ce qu'est capable de faire, notamment le Borussia sur les corners, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on n'en est pas là. En tout cas, Carlo avait voulu éviter tout débat avant ce match-là. Il avait annoncé depuis le début que ce serait Lounine.
Les matchs à venir, Fred, ok, on va les regarder dans les championnats. Il n'y a plus d'enjeu. Mais ce qu'on va surtout regarder, c'est le match de ce soir.
Bah, bien sûr.
Et tu l'as dit deux fois, s'il y a qualification.
Bien sûr.
Ouais. C'est vrai que ça a été dur lors des tours précédents, quand même, Fredo, pour le Real. Madrid a quand même galéré. Hein. Moi, je pense au match contre Leipzig, notamment. Ça a été compliqué, quand même.
Contre Leipzig contre City, bien sûr, contre Leipzig.
Même l'aller contre le Bayern.
Ils n'ont pas été très bons contre Leipzig, mais ils ont toujours été qualifiés.
Oui.
Donc, c'était. Voilà, il n'avait pas été excellent contre City. Ça
Carlo l'a dit
rien,
hier mais... en conf de presse, il a dit le match aller contre le Bayern, le Bayern a été meilleur que nous. Ouais.
Il ramène un 2-1. Mais parce que le Real a eu l'occasion par cette passe fabuleuse de Kroos et ce but de Vinicius d'être devant tout de suite. Donc après, ils ont été très défensifs. Voilà, après, mais le Bayern, c'est le club. Fétiche, l'ennemi fétiche du Real Madrid, c'est-à-dire que c'est le club le plus respecté à Madrid, sans aucun doute.
Ouais.
On est à Madrid, donc on dit que c'est le grand classico de l'Europe, ce Real Bayern. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de respect pour le Bayern, et en fait, les Madrilènes n'étaient pas du tout surpris que ce soit aussi difficile là-bas à l'Allianz Arena. Mais ils sont revenus avec le match nul, donc c'est fabuleux.
Ouais, oui. Et tu as vu la composition d'équipe et l'organisation du Bayern, c'est quand même avec un bon équilibre, ok, mais sur le plan offensif, il y a du matos. Hein.
Ouais.
Et Carlo est aussi défensif que la semaine dernière,
ouais.
puisqu'il y a quand même Mbappé sur le banc et Tchouaméni au milieu de terrain.
Ah ben Carlo, qui est pour moi l'un des trois meilleurs entraîneurs, tu sais très bien ce que je pense de la saison dernière, où je n'ai toujours pas, et j'ai aucune explication. De cette composition d'équipe à City où il y a 6 joueurs offensifs après avoir fait un partout à Madrid, ce qui n'était pas un mauvais.
Il a reconnu qu'il s'était trompé. Hein,
ouais.
Donc,
ouais. Tiens, juste un mot les gars aussi, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur l'avenir du Real Madrid qui devrait se dessiner avec Kylian Mbappé la saison prochaine. Aurélien, toi qui justement es à Madrid, je sais que tu as rencontré des supporters madrilènes, tu leur as demandé pour le site rmcsport.fr s'ils étaient inquiets par le niveau affiché par Kylian Mbappé, notamment lors des derniers matchs de Ligue des Champions. Aurélien, ils t'ont dit quoi les supporters du Real justement face à ces prestations de Kylian Mbappé qui devrait arriver donc à Madrid?
Oui, excuse-moi Nico, tu peux m'en poser la question.
Oui, pardon,
on peut parler en même temps.
Je te disais, t'as rencontré des supporters du Real et tu leur as demandé ce qu'ils avaient pensé des prestations de Kylian Mbappé qui devrait rejoindre donc Madrid la saison prochaine. Ils t'ont répondu quoi?
Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a une inquiétude qui grandit un petit peu parce que ils l'ont vu comme tout le monde fantomatique, transparent pendant les demi-finales. Même ces dernières semaines au PSG, c'est pas flamboyant. Donc à part la petite barre transversale qu'il a réussi à toucher, on se dit c'est pas terrible. mais voilà, certains se disent que c'est à cause de Luis Enrique, c'est à cause d'un PSG qui l'entoure mal finalement, parce qu'on dit, là j'avais un chauffeur de taxi notamment qui était un grand supporter du Real et il m'a dit, bon, Asensio, Fabien Ruiz, on les connaît ici, c'est pas terrible, c'est pas avec eux qu'il aura des ballons, donc on n'est pas finalement étonné à ce point là de le voir galérer en, en cette fin de saison, mais on sait aussi que voilà, il y a de l'eau dans le gaz avec le PSG, que Sylvio en Real, il aura forcément une confiance de haut niveau et un rendement beaucoup mieux ici que ce qu'il a à Paris. Bon, après il y a aussi beaucoup de supporters du Real qui disent, bon, ça fait 5 ans qu'on l'attend, on l'a toujours pas vu, on croit que ce qu'on voit et on attend de le voir avec le maillot du Real Madrid. Et puis le dernier thème aussi, c'est Mbappé, d'accord, mais Mbappé où? Parce que le Real va peut-être tout gagner cette saison.
Rodrigo le sacrifié, quoi.
Ben, exactement, ça serait plutôt Rodrigo.
Ça dépend des matchs.
Mais c'est ça, mais chez les jeunes notamment, alors chez les plus anciens, on a tendance à se dire on va tout gagner, donc est-ce qu'on en a besoin de Mbappé? Mais chez les plus jeunes qui veulent absolument voir Mbappé, ce serait plutôt Rodrigo qu'on mettrait sur le banc des remplaçants. Dommage pour lui, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Madrid cette saison, 5 buts.
Après, le vieux que je suis était là quand Zidane est arrivé. Il y avait des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de place pour Zidane au Real.
On fait toujours Rodrigo, de la place. Tu verras, il sera sur le banc des remplaçants, et puis au mois de mai, quand on fera le point, il aura joué 70% des matchs.
Merci Fredo d'avoir été avec nous. On te retrouve ce soir dans l'After, mon Fredo.
Avec grand plaisir.
À la fin de ce Real Madrid Bayern. Tu restes avec nous, Aurélien. Merci Roland d'avoir été avec nous. Merci Coach.
Salut.
Voilà, merci. Manu Petit va arriver dans un instant. Coup d'envoi imminent de cette deuxième demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern. Il y a également du basket ce soir. Match tendu, serré entre Monaco et Fenerbahçe. Le match 5 en plus du quart de finale d'Euroleague, Maxime Tillier.
Ouais, c'est le match décisif pour rejoindre le dernier carré de la compétition. C'est très tendu et non, il ne va pas marquer panier Moutier Jonas. En revanche, il aura faute. 60 points pour Monaco, 64 pour le Fener qui a pris les devants dans ce Money Time. 4 minutes à jouer, 4 minutes pour renverser la vapeur côté Monégasque qui est allé chercher un deuxième Final Four consécutif.
Merci Maxime. Et alors, coup d'envoi imminent donc de ce match entre le Real et le Bayern, de partout lors du match. Allez, Manu Petit va nous rejoindre dans une poignée de secondes. Le 32-16 est ouvert. À tout de suite sur RMC.